suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel,
Nous sommes le premier lundi du mois et comme tous les premiers lundis du mois sur Radio Campus 106,6, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max, très bien, je suis essentielle, mais toi aussi. Aujourd'hui on va accueillir Marc de Basquiat, qui lui aussi depuis je crois 18 ans déjà, pense qu'on est tous essentiels et travaille de façon très technique, mathématique, sur une version de revenu de base que j'aime beaucoup et que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Bonjour Marc.
Bonjour Virginie.
Alors avant de commencer, nous allons te faire de passer à la moulinette de notre questionnette préférée. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire. C'est à ton nom et jusqu'à ta fin de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Ce qui changerait pour moi, sachant que je suis d'abord un ingénieur, c'est que je chercherais à comprendre ce que c'est que ce truc-là.
Oui, mais si c'est toi qui l'as mis en place.
Voilà. Donc si c'est moi qui l'ai mis en place, déjà, ça ne serait pas quelque chose que je pourrais considérer comme suffisant. Mm. Voilà, ça c'est déjà la première réaction, c'est que pour moi, un revenu universel, si on commençait à dire que c'est quelque chose de suffisant pour vivre, je pense que là, il y a déjà un premier biais qui me fait, qui m'inquiète un peu. Je me dis, tiens, qu'est-ce que cette chose-là ? Je dis, tiens, on va comme ça, pas distribuer un montant qui permettrait à tout le monde de croire que, bah, tiens, la vie, c'est facile, il suffit de vivre et puis c'est tout, quoi. Mmh. Voilà. Donc là, déjà, l'ingénieur qui est en moi commence déjà à réagir. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette chose-là ? Bon. Une fois que ça s'est passé.
Mais c'est ça. Je pense que toi, tu vas nous parler du 2RU. Si tu avais un 2RU là maintenant, qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Rien.
Rien.
Pour moi, rien. Pour moi, rien. Pourquoi ? Parce que bon, j'ai des revenus, voilà, ma femme aussi, nous avons des enfants. Bon, donc, quelque part, d'avoir un socle de revenus qui assure qu'on ne tombe jamais, n'étant pas dans une situation où je tombe, bon, quelque part, ça ne change rien.
On ne sent pas besoin.
Et je pense que pour un revenu universel qui fonctionne, il faut le penser comme quelque chose qui, pour beaucoup de gens, ne change rien. Sinon, on va inventer un truc qui est juste une révolution, et là, ça risque d'être un peu compliqué, quoi.
Mais alors, tu veux dire que ça changerait quelque chose pour les autres ? Parce que quand tu dis « pour moi, ça ne changerait rien », pourquoi faire tout ça, alors ?
Non, mais c'est ça. Ça ne changera rien dans la mesure où ma situation économique actuelle est relativement correcte. Mmh. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce qu'effectivement, si on met en place un revenu universel, il faut également mettre en place un impôt pour le financer. Sinon, ça n'a pas de sens, cette affaire-là.
Oui, pour le financer.
Voilà.
Oui.
Bah oui, il faut mettre des sous dans la machine. Sinon, on ne va pas distribuer des sous qui n'existent pas. Il faut bien que ça existe. Voilà. Et donc ça, donc du coup, pour moi, ça ne changera rien. Mais par contre, ce qui changerait, et là, je présente pas, ce qui changerait, c'est ma relation de moi avec tous les autres.
C'est-à-dire ?
Le fait qu'on met en place un revenu universel, c'est que chacun sait que tous les autres ont le même revenu universel. Et donc, que la société donne la même valeur à chacun.
Oui, donc dès la naissance, en fait, on est accueilli comme un citoyen à part entière. Donc, on a l'égalité des droits, mais aussi à minima des moyens de cette liberté, c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que le titre de ton émission, Tous Essentiels, je m'y retrouve pleinement. C'est ça qui est vraiment important dans notre proposition. C'est de dire que on signifie à chacun qu'il est essentiel pour la communauté, pour la collectivité. On est tous essentiels.
Qu'il est accueilli.
Mmh. Et donc symboliquement, quel que soit le montant, quelles que soient les modalités, le fait que chacun reçoivent ce revenu universel qui dit « Ah, toi, tu fais partie de la communauté à part entière », c'est un message essentiel.
Tout à fait.
Donc, quand je dis que ça ne changera rien pour moi, en fait, je plaisante. D'un point de vue économique, ça ne changera pour le moment pas grand-chose, voire rien du tout. Mais par contre, d'un point de vue symbolique, d'appartenance à une nation qui reconnaît à chacun son entière place, c'est énorme. C'est énorme.
C'est un nouveau contrat social, finalement.
C'est un nouveau contrat social, tout à fait. Tout à fait.
Ça donne envie, ça donne envie.
Oui, je crois que ça donne envie. Enfin, tous ceux à qui j'en parle, je fais souvent des conférences, hein, globalement, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, parce que tant qu'on n'a pas compris, effectivement, on se perd un peu. Et donc, parfois, les gens sont dans des oppositions parce qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle concrètement.
Et alors,
une fois qu'on a compris, les gens disent « Ok, bah oui, super, ça change beaucoup de choses, en fait. »
Et donc, justement, comment ça fonctionne, alors, le 2RU?
Le 2RU, alors c'est un jargon, un petit slogan, le chiffre 2RU, c'est très compact, c'est 3 caractères, hein, 2RU. En fait, nous l'avons conçu avec l'Association pour l'instauration du revenu minimum décent, hein, l'AIRE, que je préside depuis maintenant 7-8 ans, LR. Et donc LR, nous avons conçu cette formule 2RU qui dit quoi? En fait, il y a le revenu universel, mais il y a aussi la redevance universelle, donc RU, revenu universel, RU, redevance universelle. Parce que si on met en place ce dispositif-là, il faut aussi mettre en place une sorte d'impôt universel de la même manière. Mmh. On ne peut pas faire l'un sans l'autre en réalité. On ne peut pas concevoir qu'on donne de l'argent à tout le monde qui vient de nulle part, ça n'existe pas. Donc l'argent, il vient bien quelque part, et donc il faut qu'il y ait un système fiscal, un fonctionnement fiscal qui implique également toute la collectivité, où chacun contribue à hauteur de ses moyens, celui qui a très peu de moyens, voire pas de moyens, mais qui ne contribue pas du tout ou un peu, et celui qui a beaucoup de moyens, il contribuera beaucoup plus, bien sûr.
Une sorte de répartition, de réduction des inégalités.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a cette formule qui est connue depuis très longtemps, hein, qui est de dire, voilà, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Mmh. On est vraiment dans ce schéma-là. Hein. Et donc, dans les besoins que chacun a, il y a la survie, il y a se nourrir. Hein. Aujourd'hui, en France, on se nourrit pour aller 15 euros par jour. On se nourrit à 15 euros par jour. On se nourrit pas forcément très très bien, je suis d'accord. On peut
oui,
faire
c'est
mieux,
sûr. Hein. Voilà. En termes de qualité voilà, non mais, plus.
Voilà, bien sûr, voilà. Bon, ensuite, dans les besoins essentiels, il faut que chacun puisse se loger.
Oui.
Quelqu'un qui n'est pas logé, on peut faire tout ce qu'on veut, il ne sera jamais bien. Mais pour se loger, pour se nourrir, s'habiller, se soigner, avoir un forfait Internet, aujourd'hui sans Internet, c'est compliqué la vie. Hein.
Oui, voilà, donc il y a une insertion sociale.
Voilà. Donc d'assurer que chacun ait accès à ces éléments essentiels de la vie, eh ben oui, ça il faut réaliser ça.
Comme un socle de sécurité pour chacun, quoi.
Un socle de sécurité pour chacun. Et également un socle de participation citoyenne, et ça me paraît important, également pour chacun. Disons que chacun, voilà, je contribue par l'impôt, hein, parce que on est une communauté, donc je suis membre de la communauté, donc je contribue par l'impôt. C'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tout le monde paye la TVA, tout le monde paye la CSG, tout le monde paye différentes choses. Et juste l'impôt sur le revenu, sur lequel il y a un truc un peu compliqué, mais ça, on en reviendra. Donc là, le fait que chacun participe et que chacun reçoive, ça me paraît le pari essentiel, extrêmement important, du revenu universel.
Mais alors du coup, est-ce que c'est un truc qui se rajoute en plus? Parce que ça, comme tu dis, ça existe déjà.
Alors, ce qui existe déjà, donc ce sont donc les impôts qui existent déjà, ça, on va revenir un tout petit peu sur l'impôt sur le revenu. Selon les autres, évidemment, ils sont universels, ils prennent des bords. Par contre, dans ce qu'on reçoit, non, ce n'est pas universel. Ce n'est pas universel parce qu'il y a des personnes qui sont au RSA, d'autres qui sont à l'AAH, à l'ASPA, qui reçoivent des allocations chômage, qui reçoivent un salaire, qui reçoivent un revenu d'indépendant, qui reçoivent une retraite. Bon, les cas sont très nombreux. Donc, dans ce qu'on reçoit, d'un point de vue monétaire, il y a plein de situations aujourd'hui.
Puis c'est super compliqué. On voit le temps.
Chacun est dans un cas différent, quoi.
Oui.
Chacun des enfants, pas d'enfants, mariés, pas mariés, on paye plus ou moins d'impôts, on reçoit ci, on reçoit ça, tel ou tel avantage.
Oui, ça fait des dossiers à n'en plus finir. Même les agents sociaux ne s'en sortent plus.
Non, et surtout, ça fragmente la société. Mm. Ça fragmente la société. Donc, du coup, chacun est dans son univers à soi. Hein, quand on est dans la case RSA, voilà, on est dans la boîte RSA, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Et quand on est dans la boîte ASS, c'est différent. Hein. L'ASS, ça peut être un montant assez proche. Les règles sont très différentes entre l'ASS et le RSA.
Tu peux nous redire ce que c'est que l'ASS et le RSA?
C'est la question spécifique de solidarité. Mmh. C'est quelque chose qui est versé par Pôle emploi, avec des conditions spécifiques, avec des entrées spécifiques, des sorties spécifiques.
Et des conditions,
Ouais. Et donc, du coup, même si les montants sont proches, c'est pas la même chose du tout, quoi. Quelqu'un qui est à l'ASS, il a intérêt à y rester. Et donc, du coup, il hésite à trop travailler. Il peut travailler un petit peu, mais s'il dépasse certains seuils, il perd beaucoup de choses. Donc, il fait attention, quoi.
Oui, c'est ce qu'on appelle la trappe à pauvreté, c'est ça?
Ouais, c'est une trappe à pauvreté, une trappe à sous-activité, une trappe à, à des actes, quoi.
Plus l'estime de soi et la dignité qu'on perd au passage, parce qu'on est considéré comme non productif, tout ça.
C'est une catégorie inférieure, quelque part. Hein. Mm. Je suis jugé voilà, dans cette case-là, pour en sortir, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, c'est malsain. Et donc, du coup, le revenu universel, ça consiste à dire, voilà, on a un montant, le même pour tous. On a un impôt, même règle pour tous. Et à partir de là, chacun peut vivre, déployer son existence, faire des choix rationnels, raisonnables. Et dans les cas particuliers, bien sûr, il y a des cas particuliers. Les personnes handicapées, il y a une allocation en plus pour le handicap, bien sûr. Mmh. Les personnes âgées, il y a quelque chose en plus pour les personnes âgées. Les parents isolés, il y a quelque chose en plus pour les parents isolés. Donc selon les différents cas particuliers, il y aura des compléments. Mais le socle, c'est le même pour tous. Et il est automatique, il n'y a rien à demander, ça tombe tout seul.
Et donc par rapport à actuellement, qu'est-ce qui disparaît et qu'est-ce qui est conservé?
Voilà, faut faire la liste. Alors là, Max,
en quelques mois,
me lance un défi, et lorsque j'ai un défi aux éditeurs, parce que si je commence à faire la liste, je pense que tout le monde va s'endormir.
c'est vrai.
Non, c'est terrible. Enfin, la première chose qu'il faut regarder, en fait, c'est l'impôt sur le revenu. Là, j'arrive sur le sujet, le vraiment central. L'impôt sur le revenu, c'est le premier outil de redistribution en France. Mmh. Et ça, pour le comprendre, ça demande un effort. Parce que ça paraît pas évident. On dit l'impôt, c'est un truc pour les riches, ça va bien. Non. Attention. Le fait que les personnes qui ont revenus modestes ou moyens ne payent pas ou très peu d'impôt sur le revenu, c'est un avantage financier. Ça paraît bizarre de dire ça, mais le fait que plein de gens ne payent pas l'impôt, c'est un avantage financier qui leur est accordé par l'État.
Comme une compensation à leur, manque de revenus.
C'est pas très élevé, donc du coup, vous n'avez pas d'impôt ou un tout petit impôt. Mm.
On ne parle pas des GAFAM, là, hein, c'est ça?
Non.
On n'est pas dans les GAFAM, là.
Juste en dessous.
Non, on n'est pas là-dedans. Voilà. Donc là-dedans, donc cet impôt sur revenu qui est progressif, qui est très progressif par rapport aux autres pays. La France a l'impôt sur le revenu qui est le plus progressif.
Mmh, en ce sens, oui, avec les tranches.
En ce sens qu'il y a 57% de la population qui paye zéro.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de la population qui est en dessous du radar, quoi. Et donc ça a pour effet que ces 57% de la population, ceux qui n'ont pas le revenu, ils payent zéro, c'est normal, il n'y a pas de débat. Par contre, ceux qui ont un revenu, je dirais, du niveau du SMIC, ce genre de choses, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et dans d'autres pays, ils paieraient l'impôt. En France, on démarre très 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 tard l'impôt sur le revenu.
Oui.
En termes de revenus, par rapport aux autres pays. Beaucoup plus tard qu'ailleurs. Et donc, en fait, en France, le plus gros de la redistribution, elle est fiscale. C'est par le fait qu'on ne paye pas d'impôt qu'on a un avantage financier vu de l'État. Et ça, c'est vraiment le point qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à un revenu universel. Parce qu'on dit toujours, le revenu universel, ça va remplacer le RSA, ça va remplacer l'ASS, ça va remplacer ici ou ça, d'accord. Mais surtout, ça vient remplacer un bout de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Je dis bien un bout, hein, pas tout, un bout. C'est-à-dire que si on donne 500 euros à tout le monde, si on donne 500 euros à tout le monde, on peut aussi dire que, tiens, si on donne 500 euros, en contrepartie, si tu as des revenus à côté, tu paieras l'impôt dessus. Donc aujourd'hui, tu n'en payes pas. C'est ça le truc important qu'il faut comprendre. C'est que quelqu'un qui aujourd'hui qui a un SMIC, par exemple, qui ne paye pas d'impôt du tout, zéro, se dit, tiens, on te donne 500 euros, mais par contre, tu vas payer l'impôt sur ton SMIC.
Donc en fait, c'est comme si les 500 euros consistaient en la première tranche non imposable.
Ça revient un peu à ça. Ça revient un peu à ça, c'est-à-dire que l'avantage des 500 euros qu'on distribue à tout le monde, il va remplacer effectivement le RSA, qui est de 500 et quelques euros, pareil. Hein. J'arrondis les chiffres, sinon c'est compliqué. C'est à peu près pareil que le SMIC, à peu près pareil que l'ASS, Et puis pour ceux qui sont au niveau de, voilà, d'un revenu voilà, moyen, modeste, eh bien, ça vient se substituer au fait qu'aujourd'hui, ils ne payent pas d'impôts.
D'accord, donc en fait, ils paieraient quand même des impôts.
Là, ils paieraient un petit peu d'impôts, ce n'est pas des gros impôts. Hein. Ils paieraient un petit impôt, mais ils auraient 500 euros. Donc, les 500 euros sont au-dessus là, de ce qu'ils paieraient comme impôts, mais du coup, ils seraient imposables comme tout le monde. Le schéma de la rue, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, tout le monde paye de l'impôt à hauteur de ses revenus, tout le monde reçoit son revenu universel de 500 euros, même si c'est ça le montant. Et du coup, bah, tout le monde a la même règle. C'est-à-dire que, voilà, qu'on soit tout en bas de l'échelle des revenus ou tout en haut de l'échelle des revenus, on a toujours tous les 500 euros par mois, on paye toujours tous un impôt. Voilà. Et donc, ceux qui ont des très hauts revenus, bien sûr, ils auraient un impôt plus fort. Hein. C'est une décision politique qui est nécessaire et importante, bien sûr. Mais l'idée, c'est que tout le monde paye l'impôt. En France, c'est une anomalie. Hein, qui est, toute la moitié qui ne paye pas l'impôt, c'est une anomalie, en fait.
Dit comme ça, ça donne beaucoup moins envie. Donc, j'imagine un peu nos auditeurs, oui. Ils disent, mais attendez, vous êtes en train de me vendre un truc et en échange, je vais payer des impôts.
C'est 25 décembre, c'est pas 25 décembre.
Est-ce que dans l'absolu, parce que j'ai vu que tu avais fait des calculs très, très, très précis et qui servent de base d'ailleurs à un certain nombre de personnes, mais donc, si tu peux nous résumer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui perd et si oui, qui? Parce qu'on voudrait pas, et là quand même le mouvement français pour le revenu de base ne soutient que les versions sans régression. Donc, est-ce que tu peux nous assurer qu'il n'y a pas de régression pour les plus précaires?
Voilà. Alors, tu peux même préciser pour les plus précaires. Parce que, effectivement, dans un système, quand on propose un changement de dispositif, forcément, il y a des gens qui vont avoir un peu plus, d'autres un peu moins, forcément. Sinon on ne change rien. Hein, sinon. Mm-hmm. Ok, ça c'est déjà la première chose qu'il faut admettre, c'est que si on fait un changement dans les dispositifs existants, bien sûr, il y aura des gens qui auront un peu plus et des gens qui auront un peu moins.
Alors, je t'interromps juste pour faire une parenthèse, parce que Emmanuel Macron nous a vendu ça il n'y a pas très longtemps aussi, sous la forme d'un revenu universel d'activité, et où clairement les pauvres s'appauvrissent encore plus et les riches s'enrichissent. Je caricature un peu, mais au final, ça revient quand même à ça. Donc, est-ce que le 2RU se dissocie de ça?
Alors, déjà, je reviens sur le fait que tu dis Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps, bon. Emmanuel Macron, il a annoncé le revenu universel d'activité, il l'a annoncé en septembre 2018. Il me semble 2022.
Oui, parce que finalement, il n'a pas trop trouvé comment l'appliquer. Mais
En fait, ce n'est pas lui, c'est qu'il a nommé quelqu'un qui s'appelle Fabrice Langlard, que je connais bien, quelqu'un qui est extrêmement brillant, enfin, qui est très très bon, qui est super, enfin, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités, que j'aime beaucoup. Fabrice Langlard, il a mobilisé 30 administrations pendant plus d'un an pour réfléchir ensemble, travailler ensemble, se voir toutes les semaines. Hein. Alors, comment on fait pour réaliser ce revenu universel d'activité? C'est épouvantablement compliqué. Et ça, je pense que personne parmi nos auditeurs n'a conscience d'à quel point c'est épouvantablement compliqué, ce truc-là.
À cause du maquis des aides, etc.
C'est effrayant. C'est que la manière de calculer les revenus des uns et des autres pour le calcul de leurs allocations, que ce soit RSA, aide de logement, prime d'activité, tout ça, la manière de calculer les revenus est différente d'une allocation à l'autre. Vous dites, tiens, vous avez tel type de revenus, dans le RSA on compte, dans tel revenu, truc, on ne compte pas. Ou on en compte qu'un bout, ou sous un certain seuil, ou un pourcentage. C'est épouvantablement compliqué. Et pourquoi? Parce que, comme les dispositifs ont été créés, aménagés, modifier, améliorer, bricoler au fil du temps, année après année, chaque mécanisme est une usine à gaz. Et quand on a 40 dispositifs qui sont tous des usines à gaz, le résultat, c'est même plus une usine à gaz, on sait même plus comment nommer cette chose-là. Mmh. C'est épouvantable. Et donc, le fameux Fabrice Langlard, qui a fait ce travail pour le gouvernement de définir comment faire un RUA, au bout d'un certain nombre d'années, a fini par dire, on ne va pas les fusionner. C'est trop compliqué. Et il a dit, il faut faire avant, on va essayer d'automatiser le versement des dispositifs existants et on va essayer de rationaliser les manières de calculer les ressources des personnes qui bénéficient des dispositifs. Et il a dit, on va essayer. C'est-à-dire que parmi nos auditeurs, il faut que les gens prennent conscience de à quel point nous sommes dans un système d'une complication épouvantable.
Je pense qu'il y en a qui le vivent au quotidien, qui oui, savent très bien, alors, mais même là, s'ils n'ont pas la vision globale, voilà.
C'est ça, c'est que chacun vit au quotidien les choses qu'il connaît. Donc, ça me concerne, je connais, donc je vois que c'est compliqué, je vois qu'on me demande 24 documents pour obtenir un RSA ou un boulot machin qui va me rapporter 200 euros par mois.
Avec des questions donc, quand même très personnelles.
Ouais, hyper personnelles, hyper intrusives, hyper désagréables. Mais par contre, cette personne-là ne sait pas que quand on est sur un autre dispositif, on ne pose pas les mêmes questions. On ne calcule pas de la même manière. Ce n'est pas les mêmes conditions. Et si c'est encore un troisième truc, c'est encore différent. Donc personne ne connaît l'ensemble. Et Fabius Wengler, je reviens sur celui qui a déclaré publiquement au Sénat, il a dit, vous savez, de toute l'administration, il n'y a pas une personne qui connaît tout. Ça n'existe pas.
Mais pourtant, est-ce, est-ce qu'il a entendu parler du 2RU, celui-là ?
Bien sûr.
Mais ?
Bien sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, donc, le point qu'il faut vraiment repérer, c'est qu'on est dans un système qui a une complication extrême, qui a plein de trous partout. Des trous, parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas les prestations, tellement c'est compliqué, tellement c'est intrusif. C'est
ah oui, le taux de non-recours, c'est terrible.
Et puis, il y a des gens qui ne sont pas les bonnes cases, qui cochent pas les bons cas. Donc, du coup, ils sont négligés, ils sont mal servis, ils sont mal aidés. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi.
J'ai entendu, je fais une parenthèse, quelques chiffres. J'ai entendu, alors, chiffres avant Covid, qu'il y avait quand même un tiers des personnes qui avaient droit au RSA socle et qui ne l'avaient pas, ou qui ne demandaient pas, ou qui ne réussissaient pas à remplir les dossiers. Et deux tiers pour le RSA activité. C'est énorme, quand même.
Oui, c'est... Alors, ces chiffres-là sont très compliqués à obtenir. Hein. L'administration galère pour essayer d'avoir une estimation du taux de non-recours, on appelle ça comme ça, le non-recours, mais ces chiffres sont crédibles. Oui, un tiers, c'est crédible. C'est crédible.
Alors, du coup, le 2RU, là-dedans, vas-y, dis-nous.
Bah, le 2RU, alors, ce qu'il faut voir, c'est que le 2RU, il faut le présenter en commençant par la partie fiscale. La partie fiscale. Donc c'est là que c'est un peu technique. Alors, je ne sais pas si le fait d'être un peu technique, c'est quelque chose qui est épouvantablement perçu, ou est-ce que les auditeurs acceptent que j'aborde des questions un peu techniques.
Allons-y.
Allons-y. Bon, alors, si Max me dit allons-y, j'y vais. L'impôt sur le revenu, c'est le point de départ. L'impôt sur le revenu, il est calculé avec 5 parts. Donc, il y a 5 tranches, hein. Disant, si vous avez en dessous de 10 000 et quelques euros de revenus par part fiscale par an, en dessous de 10 000 et quelques, vous payez zéro. Ça, c'est la première tranche. Ensuite, si vous avez des revenus qui sont au-dessus des 10 000 et quelques euros, et de 10 000 jusqu'à 25 000, sur cette tranche entre 10 000 et 25 000, vous allez payer 11% de cette tranche-là.
Donc, de ce qui dépasse de la première tranche, faut préciser.
De ce qui dépasse de la première tranche, absolument. Et ensuite, si vous avez des revenus qui dépassent encore les 25 000 en question, bon, jusqu'à 75 000, j'arrondis, vous allez payer 30% de cette tranche-là.
Sur cette partie-là, oui.
Ouais. Et puis, si ça dépasse encore, vous payerez 41% et encore plus loin, 45%.
Bon, ça, nous, on ne connaît pas.
Suite, mais 45%, ça concerne 0,2% de la population française.
Ah oui, il me semblait bien.
Ça concerne 60 000 foyers fiscaux en France. Toute la France, 60 000. Donc, 45%, on va dire, c'est des cas très particuliers, très exceptionnels, c'est très, très, très haut revenu.
En fait, c'est ceux qui ont un mauvais expert comptable.
Oui, parce que les autres trouvent des moyens de...
Ça prend le débat, ça prend après ça.
Max, chut.
Donc 41%, donc la tranche juste avant, 41%, hein, c'est des revenus qui sont entre 75 000 et 160 000 euros de revenus par fiscal par an. Là, il y a à peu près 1% de la population qui est là-dedans. 1%, c'est les cadres dirigeants, c'est... Oui.
Ils gardent quand même 65% de leur... 55%.
Voilà. Là, on a 41% sur le taux qui s'applique à cette tranche-là. Bon, là, encore une fois, c'est 1% de la population. Bon. Ensuite, la tranche qui est juste avant, la tranche à 30%, la troisième tranche. La tranche à 30%, ça concerne, d'après les statistiques des impôts, hein, ça concerne de l'ordre de 13% de la population. 13% qui est entre 25 000... et 75 000 de revenus annuels par part fiscale. J'insiste bien sur le part fiscale, parce que quand on est personne seule, célibataire, sans enfant, mettons, voilà, on a une seule part. Quand on a un couple sans enfant, on a deux parts. Donc, là, un couple, c'est deux.
Je te suis, jusque-là, ça va.
Bon, voilà. Et lorsqu'on est dans cette tranche-là, hein, entre 25 000 et 75 000 par part. Comme on paye 0 de 0 à 10 000 et qu'on paye 11% seulement de 10 000 à 25 000, en fait, on ne paye pas un impôt de 30% sur tout. On paye 30% uniquement sur le bout qui est dans cette tranche 25 000. Mmh. Et donc, du coup, le calcul de l'impôt, si je vous présente par mois, l'impôt par mois, quand on est dans cette tranche-là, la formule mathématique, c'est qu'on paye exactement 30% de tous ses revenus moins 506,50 € par mois par part fiscale.
Donc on retombe sur le montant du 2RI.
Il y a un montant qui correspond au fait qu'on ne paye rien au début et peu sur la tranche à 11%, qui fait que là, il y a ce terme fixe de 506,50 € par part, donc qu'on est seul, c'est 506,50 €, que le fisc ne vous prélève pas par rapport à 30%, et si on en couple, il y a 506,50 fois 2 que le fisc ne vous prélève pas si vous êtes en couple.
D'accord.
Et ce que je dis, c'est que il faudrait nommer ces 506,50 € revenu universel. Donc quand je parle de mettre en place ce revenu universel, je dis, il existe déjà pour toute la population qui est dans cette tranche-là. Pour les 13% qui sont là-dedans, on peut juste nommer ces 506,50 € revenu universel.
D'accord.
Et du moment que ces cas, donc les personnes seules ou en couple ou autre, qui reçoivent ces 506 € sans le savoir, ils sont déduits de leur impôt, et bien, pourquoi pas faire pour tout le monde? Pourquoi pas faire pour tout le monde? Et si on fait ça pour tout le monde, c'est qu'on dit que l'impôt, ça devient une règle unique pour tous, c'est-à-dire 30% de vos revenus moins 500 € par mois par personne, adulte, vous faites ça pour tout le monde. On garde un impôt supplémentaire pour les très riches, ça pour les 1% des très riches, il y a un truc en plus, ça c'est un débat politique, ça, c'est pas un sujet. Et par contre, pour tous ceux qui sont en dessous, si leur impôt c'est 30% de leur revenu moins 500 € par personne, s'ils n'ont pas de revenu, c'est 30% de zéro, ça fait zéro, moins 500 €, ils ont un impôt qui du coup a une forme négative de 500 € que le fisc leur verse.
Mmh. Bon, effectivement, c'était un petit peu technique.
Pour digérer
Max, est-ce que c'est compréhensible?
Digérer, Max nous propose une petite musique.
Une petite chanson, c'est l'argent de chanson plus bifluorée. C'est parti.
L'argent, c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des sicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements, fortunés, dotations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Est-ce que d'os, pesetas, spéculer, picaillon, des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. Des avoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, de la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans d'épargne, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuille, petite coupure, virement, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon. Facture à payer, je suis endetté, j'ai plus d'argent pour le loyer. richesse, augmentation, résultat, excédent, salaire, brut, rotation. Y'a que le pognon. C'est des pièces, des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire, des milliards, des millions, CAC 40, le Dow Jones, les rémunérations, des indices et des rentes et des fonds de pension. Y'a que le
chanson plus bifurée sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base avec Virginie et Marc aujourd'hui.
Marc qui nous présente la version du 2RU et Max avait une petite question.
Oui, alors en fait, ma question était à un moment donné, forcément, on va se retrouver à travailler pour rembourser notre 2RU. Mais le passage se fait à quel moment ? De notre salaire.
Bah, travailler pour le 2RU. Alors, pour ça, pour comprendre la chose, si on a compris l'idée que le 2RU est formé à partir de ce qu'on voit sur l'impôt des personnes relativement aisées. Donc, du coup, on dit, OK, si on teste cette formule qui est 30% des revenus moins 500 euros par personne par mois. On prend ça comme hypothèse. On pourrait discuter le montant après, ça, c'est un autre sujet. Déjà, l'incompréhension du système. Bien, quelqu'un qui a un revenu, je sais pas, de 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, c'est un peu moins que SMIC. Bon, 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, on dit, 1000 euros, on va retenir 30% de 1000 euros. Donc, vous aurez 700 euros. Et on vous rajoute 500 euros. Les personnes, 500 euros. Donc, du coup, il finirait avec 1200 euros au lieu de 1000. Mmh. Bon. Quelqu'un qui a un revenu qui est supérieur, le double, mettons 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, moins 30%, donc 600 euros. Si on rajoute les 500 euros, du coup, il contribuerait, d'un point de vue impôt, à hauteur de 100 euros par mois. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est très proche. Une personne seule qui a un revenu de 2000 euros, aujourd'hui, paye de l'impôt. Donc on est très proche de ce qui se passe actuellement. Voilà, mais par contre, le gros avantage, c'est que qu'on soit tout en bas, c'est-à-dire zéro revenu, on reçoit 500 euros sans rien payer, ou qu'on ait des revenus relativement élevés, d'un tranche 3 à 30%, ça ne changera rien. Quelqu'un qui a la tranche 3, aujourd'hui, s'il a un revenu de 5000 euros par mois, 5000 euros, là, on est dans les riches en France, déjà pas mal, 5000 euros par mois, moins 30%, ça fait donc moins de 1500, et on commence avec 500 euros, donc cette personne-là paye 1000 euros d'impôts. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui a 5000 euros de revenus imposables, il paye 1000 euros d'impôts chaque mois.
Alors, bon, si je puis me permettre, moi j'ai un peu peur que ça n'encourage pas suffisamment les gens à aller travailler. Parce qu'en fait, le travail, le fait de travailler, ça a un coût également quand on est salarié. Enfin, même si on est un petit peu remboursé de nos frais de déplacement et de repas, etc., bah, y a quand même le tous les frais annexes, on va dire, que garde ce soit d'enfant. Des gardes d'enfants ou autres, qui sont, enfin voilà, qui, par moment, ça vaut plus le coup de rester à la maison et de ne pas travailler que de travailler si c'est pour ne pas gagner suffisamment en plus, entre guillemets, non?
Oui, tout à fait. Donc ça c'est une question qui est hyper importante, hein. C'est que là, si on parle de 500 euros, mettons que c'est un peu plus, bon, ça c'est tout peut se débattre, mais ce niveau-là, c'est de quoi bouffer. Enfin, voilà, soyons clairs, hein, 500 euros, avec ça, on se nourrit et on fait rien de plus. Hein. Bon. À côté de ça, forcément, il faut des aides au logement. Il n'est pas question de dire que le revenu universel, ça va remplacer les aides au logement. Mmh. Ça, c'est un délire, ce truc-là. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que les gens soient logés. Il faut des aides au logement pour que les personnes soient logées. Les 500 euros, ça assure leur subsistance de base. Hein. À partir de là, ces personnes-là, bon, sont dans un état, je dirais, entre guillemets, fonctionnel, et ben, ensuite cherchent du boulot, cherchent à travailler dans un format associatif, salarié, il y a plein de formes. Hein. Bon. Et ça, c'est leur liberté. C'est leur liberté. Mais par contre, il faut que les salaires, si on veut des salariés, que les salaires soient attractifs. Donc là, c'est un autre sujet. Est-ce que ce qui est proposé comme boulot est attractif? Est-ce que les personnes... Ben, trouvent un intérêt dans leur boulot et qu'il y a des satisfactions personnelles, monétaires, ça c'est une autre question.
Amélioration des conditions de travail, donner du sens.
Oui, bien sûr. La sécurité, tout ce qu'on veut, quoi. L'hygiène, ben, tout compte là-dedans, quoi. Et donc ça, c'est à côté. C'est à côté. Le revenu universel, enfin, je vois pas du tout le revenu universel comme étant un choix entre soit je prends le revenu universel, soit je vais travailler. Ça n'a pas de sens. C'est j'ai mon revenu universel qui assure ma subsistance, mon socle, voilà, qui fait que je suis en état normal pour fonctionner. Et ensuite, bah, je vais travailler, je vais faire ce que je veux. Enfin, c'est capter ce qu'il veut, quoi. Hein.
Oui, puis donc, on a vu dans nos émissions précédentes que quelqu'un qui va bien, évidemment, on enlève les personnes qui ont des difficultés physiques, ou, mais spontanément, on a envie de participer à la société, on a des idées, on a, voilà, on a envie de s'épanouir, d'être en lien avec les autres, d'être utile, etc. C'est dans nos gènes.
Pour moi, c'est une valeur qui me paraît importante, hein. C'est-à-dire que reconnaître que chaque personne a le désir profond et spontané de participer à la société. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour participer à la société que de travailler, d'être reconnu dans un groupe, dans un collectif, par un client, par des collègues, et tout ce que vous voulez.
Mais quand elle a le choix, et pas à n'importe quel prix, c'est ça l'idée.
Et pas évidemment, pas l'esclavage, non. L'esclavage, non, arrêtons, quoi, stop, quoi. Les gens qui prennent des boulots parce qu'ils n'ont aucun autre choix pour survivre, ça va pas, quoi. Il faut que les gens puissent dire, non, désolé, là, ce boulot-là, ça va pas, pour telle ou telle raison, discutons-en, quoi. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce socle. Que les personnes soient vraiment solides pour pouvoir prendre des décisions rationnelles.
Et du coup, en quelque sorte, rééquilibrer aussi l'offre et la demande autour de l'emploi. C'est-à-dire, le chantage à la fin serait plus possible avec ce socle.
Ouais, voilà. Et ça marche aussi, d'ailleurs, pour les relations de couple, hein. Ça, on sait ça aussi, hein. C'est que il y a des couples, dans lequel il y a des problèmes de violence, des problèmes dans le couple lui-même, où la personne la plus fragile du couple, hein, souvent la femme, accepte trop de choses, accepte trop dans ce couple, parce que d'un point de vue économique, c'est trop compliqué de sortir du couple. Quoi.
La sécurité financière qui est en jeu.
Ouais. Ouais. Et donc là, dire voilà, chacun a son revenu universel, on se sépare, c'est comme ça, c'est la vie, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, à au moins ce socle, quoi qu'il arrive, pour redémarrer et faire autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment ce socle qui fait que, vous savez, l'image que j'ai prise, qui est de dire que l'être humain, pour fonctionner, il a besoin d'être à 37 degrés. L'être humain ne fonctionne pas à 0 degré. Et pour moi, le revenu universel, c'est un peu pareil. Personne ne fonctionne avec 0 revenu, 0. Ça n'existe pas. Il faut avoir un minimum pour être en état de fonctionnement, quoi. L'être humain, c'est 30 degrés, c'est 500 euros, 600 euros, enfin, il faut voir, mais voilà, il y a un minimum pour être en état de fonctionnement.
Alors, si je puis me permettre également une autre petite critique, c'est que j'ai l'impression que le 2RU fonctionne particulièrement bien, mais en reprenant le même système d'inégalité qu'on a actuellement. C'est-à-dire que, en fait, on rajoute effectivement un revenu de base qui va simplifier au niveau administratif bon nombre de choses, mais les très très hauts revenus resteront des très très hauts revenus et finalement participeront pas tant que ça à l'effort commun du revenu de base.
Alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce que le but, c'est de se battre contre la pauvreté extrême, la misère extrême? Ou est-ce que le but, c'est de se battre contre les inégalités? C'est pas le même combat. Ce n'est pas le même combat. Les inégalités, c'est quelque chose qui excite toujours un peu l'imagination. Tiens, il est très très riche, comment est-ce qu'il vit? Une fois qu'ils ont 40 torches, qu'est-ce qu'ils font de leur argent, quoi? 40 torches, ça peut-être leur suffire, quoi. On ne sait pas, quoi. Ça paraît dingue.
On a toujours deux mains.
Voilà, on ne sait pas comment ils font, quoi. Bon. Donc, du coup, ça excite notre imagination, on se dit, mais c'est que ce truc, quoi. Voilà. Donc, évidemment, une espèce de, spontanément, intellectuellement, on est porté à regarder ce combat sur les inégalités qui paraît, hyper choquant, hyper délirant, quoi. Et c'est le cas. C'est délirant. Je crois que ce revenu universel, c'est pas l'objet du revenu universel. S'il doit y avoir une lutte contre les inégalités, c'est d'autres mesures fiscales, c'est d'autres moyens, c'est autre chose. Et je pense que de prétendre que le revenu universel est un moyen de lutter contre les inégalités, je crois que c'est un peu faux. Je crois que ça n'a pas cet objectif-là. C'est l'objectif, c'est d'assurer que personne n'est jamais en dessous d'une ligne de flottaison, si vous voulez. Hein. Personne n'a la tête sous l'eau. Personne. Strictement personne. C'est vraiment cette garantie à 100% pour 100% de la population qu'on a porté le revenu universel. C'est pas autre chose. Les inégalités, c'est un autre combat qui est extrêmement respectable, qui est important, il faut s'en occuper, mais c'est pas cet outil-là, ça c'est sûr.
Oui, et on pourrait imaginer quand même qu'en parallèle du RU, il faudrait au moins assurer une surveillance des prix pour éviter que tout n'augmente pas au prorata ou sous prétexte de ce 2RU, de dire bah, maintenant que vous avez plus de sous, alors, ça serait pas complètement vrai d'ailleurs, mais en tout cas que du coup il y ait une flambée des prix ou des loyers
oui.
Liés à ça.
Là-dessus, la question se pose. Enfin, est-ce qu'on a 500 euros, la question ne se pose pas. Enfin, là, on n'a pas plus de sous. Enfin, quelques-uns auront un peu plus, mais quelques-uns un peu moins. Vous voyez, les 500 euros, c'est le niveau actuel, si vous voulez. Donc, bon, ça ne change pas grand-chose. Sauf que ça devient automatique, ça devient un droit absolu. Personne ne peut vous l'enlever. On vous le donne directement, vous n'avez rien à demander. Enfin, voilà, c'est le côté automatique qui est important à ce niveau-là. Mmh. Évidemment, si on rêve d'un truc qui fait 1000 euros par mois, là, évidemment, c'est une autre histoire. Là, il y a de l'inflation. Là, il y a des problèmes économiques. Du coup, ça ne se fera jamais, 1000 euros. C'est très possible. Ce serait destructeur pour l'économie. Mais voilà, donc entre les 500 et les 1000, je ne sais pas quel est mon niveau, je ne sais rien. C'est une décision politique. Mais par contre, si on est sur des montants, entre guillemets, raisonnables, il n'y a pas d'impact d'inflation. Il n'y a pas ce risque-là. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait par ailleurs d'autres politiques économiques. Hein, sur le logement, une offre de logement social, peut-être sur l'inflation, peut-être des aides ponctuelles parce qu'il y a des problèmes sur le carburant, je ne sais quoi, ok. Il faut toujours des politiques en plus, ça n'empêche pas.
Mais au moins le corps du système est simplifié et accessible ouais. Et automatique, donc il n'y a plus de non-recours.
Et tout le monde a la même règle.
Alors, est-ce que tu peux répondre, parce qu'on a régulièrement une attaque sur la version du 2RU qui dirait bah voilà, en fait c'est comme si on donne de l'argent aux gens et puis ils se débrouillent, à côté de ça on retire les services publics, les gratuités, etc. et du coup c'est comme si c'était un premier pas vers une sorte de privatisation extrême que la politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron enclenche. Donc
alors ça c'est un... Bon, de temps en temps, j'entends ça, puis bon, pas très souvent. J'entendais un peu au début, il y a une dizaine d'années, j'entendais ça. Maintenant, ça devient assez rare. Je pense que les gens ont compris. L'objectif d'un, la revue universelle, hein, quelque chose de forme, ce n'est clairement pas de, se, de remplacer les services publics. Typiquement, les retraites vont rester, tout ce qui est maladie, hôpital, ça continue, l'école gratuite, ça continue, le handicap, ça continue, parents isolés, ça continue, j'en oublie plein, évidemment. Voilà. Donc c'est vraiment ce socle, point final. À partir de là, il y a plein de cas particuliers. Il y a plein de gens qui sont dans des situations inextricables, très difficiles, bah, qui nécessitent d'avoir des aides complémentaires. Et à tout le reste, il faut voir comme étant complémentaire à ça. Mmh. Ça, c'est un socle pour tout le monde. Et après, bah, il y a plein de cas particuliers, plein de situations qui nécessitent des aides en plus. C'est évident, hein. Bien sûr.
Donc, si je récapitule, parce que tu nous as expliqué comment ça fonctionnait, c'est en même temps, individuellement, un socle de sécurité, de la naissance à la mort, automatique, donc il n'y a plus de non-recours, il n'y a plus d'extrême pauvreté, et du coup ça apporte à chacun un minimum de choix, ce choix de ses projets de vie, la possibilité de négocier à minima des conditions de travail, de choisir, donc rééquilibrer face à un employeur. Et j'ai entendu aussi un impact collectif. Voilà, c'est ce que tu as abordé en premier sur une sorte de nouveau contrat social, parce que dès la naissance, chaque être humain qui arrive dans la communauté des êtres humains est accueilli avec son RU. Donc une forme d'égalité de fait, et non plus seulement une égalité de droit, parce que ça, bon, on le sait, c'est dans la Constitution, mais avec un minimum d'égalité de moyens aussi. Est-ce que ça revient à ça?
Oui, d'ailleurs, quand tu dis la naissance, il faut voir qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'aides existantes pour les enfants.
Oui, pour les enfants. Les allocations.
Oui, donc les allocations familiales, bien sûr, mais pour ça, il faudra deux enfants. Avec un enfant, il n'y en a pas. Un complément familial, allocation de base de la page, un tarif très social des cantines, que sais-je encore, caution familiale pour ceux qui payent de l'impôt. Il y en a une dizaine. Donc tout ça, la résultante de toutes ces choses-là, c'est impressionnant. C'est qu'il y a des familles, je pense en particulier aux couples avec un seul enfant, qui ont à peu près le SMIC, bah, qu'on est en couple avec un enfant, qu'on a un à deux SMIC, on perçoit quasiment rien pour son enfant. Mmh. Parfois zéro, parfois quelques dizaines d'euros, enfin quasiment rien. Donc les aides par enfant, c'est extrêmement inégalitaire en France. Il y a des familles qui ont 400 euros, voire 500 euros par enfant. Par enfant.
Mais ça reste une politique nataliste, finalement. Il faut faire le plus possible d'enfants, comme si on en avait encore besoin.
Oui, c'est côté nataliste, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'exceptions. Il y a des cas particuliers qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus. C'est peut-être des trucs qui ont été décidés il y a 40 ans, hein, qui sont toujours là. Et donc tout le côté enfant, bah, on dit, bah, pareil. Même démarche que pour le revenu universel, on dit, ben, un enfant, mettons que ce soit 200, 250 par mois, on dit, voilà, un enfant, c'est 250 par mois, et c'est systématique, c'est automatique, et tout le reste, on vire. Et donc là, du coup, ça veut dire, ben, on sait que chaque enfant, ben, qu'il soit riche ou pas riche, on s'en fiche, c'est pareil. Les riches, ils payent de l'impôt, ben, du coup, ils financent ce qu'ils donnent à leur enfant, ça change rien. Par contre, pour ceux qui ont comme beaucoup moins de revenus, ben, du coup, ben, les 250 euros, ben, c'est pas rien, quoi.
C'est par enfant.
Par enfant. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont beaucoup moins que ça, hein, ou rien du tout. Mmh. Et donc, ce côté systématique, ce socle systématique, c'est quand même un changement énorme dans la relation de la population. C'est qu'on sait, quand on voit une famille avec des enfants, on sait que tiens, bah, lui, voilà, il a 500, elle a 500, l'enfant, papa a fait de trois enfants, c'est de 700 euros. Voilà. C'est clair pour tout le monde. Et on vit là-dedans. On vit là-dedans. Et donc, du coup, on est en transparence, on est en responsabilité collective par rapport à ça. Ça change tout, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on parle toujours de ce que l'État va m'apporter, ou ce que je paye à l'État. Et évidemment, comme on comprend rien, c'est pas ce pour les autres, on a toujours le sentiment qu'on n'est pas bien aidé, ou qu'on paye trop, ou ce genre de choses. Ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, on ne sait pas. On n'a aucun moyen de savoir. C'est tellement compliqué. Mmh.
Alors, j'avais encore une autre question concernant le système de financement, parce qu'en fait, là actuellement, sur le 2RE, on prend uniquement en compte les impôts sur le revenu, si j'ai bien compris. Mais ouais. En France, la part la plus importante des impôts, c'est payé par la TVA. qui est une part qui est payée par tout le monde, y compris le SDF du coin de ma rue qui va quand même payer de la TVA. Et par contre, cette part de TVA, elle a plutôt tendance à diminuer fortement dès qu'on arrive dans les hauts revenus, vu que la plupart des choses qui s'achètent très cher ont quasiment pas de TVA incluse dedans. Enfin, une maison, il n'y a pas de TVA, par exemple. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rééquilibrer également en incluant cette part de TVA?
Alors, en fait, la TVA, donc, c'est la taxe à la consommation. D'accord? Consommation. Donc, quand on achète une maison, ce n'est pas une consommation, c'est un investissement. Donc, d'un point de vue fiscal, on n'est pas sur la même logique. Hein. Quand on achète voilà, une maison, voilà, on investit, cette maison, on la revendra plus tard, peut-être avec une plus-value ou pas de plus-value, hein, ça dépend. Donc, on n'est pas sur la même logique économique. Et donc, d'un point de vue fiscal, taxer la consommation, ça a du sens. Taxer la propriété privée, ça a aussi du sens. Et moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus ces dernières années, sur comment est-ce qu'on devrait rénover également la fiscalité sur le patrimoine, en particulier immobilier. Hein, quelqu'un qui possède une maison, eh ben, il a un avantage économique qui est énorme par rapport à quelqu'un qui est obligé de louer comme il peut, par-ci, par-là. Quoi. Mmh. C'est un avantage économique très, très significatif. Et donc, personnellement, je pense qu'on pourrait fortement rehausser les taxes foncières. Ils sont aujourd'hui calculés de manière pas tout à fait correcte, hein, il y a plein de problèmes là-dessus. Et je pense qu'on pourrait fortement réévaluer les taxes foncières, parce que ceux qui sont propriétaires, bah, quelque part, ils ont un avantage très, très fort. Voilà, donc personnellement, je pense que c'est surtout là-dessus qu'on pourrait avancer. On pourrait aussi faire les choses sur la TVA aussi, changer les choses, ainsi de suite. Bon. Mais donc ça, c'est un travail que j'ai abordé dans mon dernier bouquin d'ailleurs, sur l'équilibre de la fiscalité, sur les différentes formes de fiscalité. Ça, c'est un point important hein, par rapport aux inégalités qu'il y a dans le pays, ça c'est un point essentiel. Hein. Mais ça, c'est important, c'est complémentaire à la question du revenu universel en fait.
Mais du coup, l'assiette de l'impôt sur le revenu telle qu'elle existe aujourd'hui, est-ce qu'elle est changée pour le 2RU ou pas?
Alors, dans ce que j'ai fait dans toutes mes simulations, calculs et tout ça, j'ai pris l'assiette actuelle.
D'accord.
Mais je suis assez persuadé qu'il y a des choses qui ne sont pas légitimes. Par exemple, je prends un exemple qui va peut-être parler. Hein. Aujourd'hui, une personne qui est dans un couple de divorce. Bon, monsieur, on prend un schéma classique, hein, monsieur avait des revenus, madame n'avait pas de revenus ou peu de revenus. Schéma historique assez habituel. Encore habituel. Et dans ce cadre-là, monsieur va verser une pension alimentaire à madame. Madame qui n'a pas de revenus ou peu de revenus reçoit une pension alimentaire. Cette pension alimentaire, elle doit la mettre sur sa feuille d'impôt. C'est-à-dire qu'on va lui demander de payer des impôts sur cette pension alimentaire. Et monsieur qui verse sa pension, il va pouvoir déduire la pension de ses revenus. Mmh. Du coup, il ne paiera pas l'impôt dessus. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est-à-dire que monsieur qui a les revenus, ben, du coup, il va faire des gains d'impôts en payant sa pension, et madame qui n'a pas beaucoup de revenus, elle va devoir payer sur sa pension, quoi. C'est quand même curieux, quoi. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est partie des choses qu'il faudrait améliorer, qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait nettoyer. Mais il y a plein de choses comme ça. Hein. Je prends un exemple, il y a plein de choses à voir comme ça.
C'est intéressant, on n'aura pas le temps, il faudrait presque une deuxième émission.
au moins.
Mais en tout cas, les auditeurs qui veulent creuser et en savoir un peu plus, ils peuvent toujours aller sur le site 2RU.fr pour retrouver les détails, mais aussi les différentes entrées de ton travail.
Il y a des petites vidéos, il y a des liens vers un simulateur. Bon, ceux qui ont vraiment envie de lire, peuvent lire mon livre, hein, qui est sorti l'année dernière.
Voilà, donc, qui s'appelle comment?
Donc, le livre s'appelle « L'ingénieur du revenu universel ». Voilà.
Et alors,
c'est voyage d'une idée pour notre temps.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ta version, c'est, outre le fait qu'elle est voilà, appuyés sur des chiffres qui font l'unanimité et qui sont convaincants, parce que voilà, ils sont très crédibles. Et en plus, à court terme, elle est possible, parce que je trouve qu'elle peut faire consensus entre la gauche et la droite. C'est un plus petit pas pour certains, c'est un premier pas pour d'autres, et ça serait déjà un grand pas pour tous ceux qui sont coincés dans le non-recours, par exemple, ou la trappe à pauvreté, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire politiquement ce 2RU, voilà, où est-ce qu'il en est? Est-ce que certains s'y intéressent?
Bon, un événement, les débats politiques sur le sujet, ce qui était important, c'était en 2020, lorsque la députée LREM, la République En Marche,
Valérie Petit,
députée du Nord d'ailleurs, vous connaissez
votre
territoire, Valérie Petit, a relancé le débat, et donc ça j'avais travaillé avec elle et avec Gaspard Koenig. Nous avons réfléchi ensemble pour inventer un nouveau terme. Et donc, nous avons lancé, c'était en mai 2020 de mémoire, nous avons lancé le terme de socle citoyen. Le socle citoyen, c'est à peu près la même chose que le 2RU. Des petits détails techniques, je pense, là-dedans. C'est à peu près la même chose. Le socle citoyen, et cette proposition socle citoyen, donc elle l'a défendue, présentée à l'Assemblée. Elle a présenté ça à beaucoup de ses collègues députés d'autres partis, de la même manière. Et il y a eu un vote qui a eu lieu donc en fin de 2020, où des députés de République En Marche, Modem, PS, Territoire, il y a eu 5-6 partis, ont voté en faveur, et la proposition qui était faite d'étudier ce socle citoyen a été votée très largement par les députés à cette date-là. Ensuite, il ne s'est rien passé.
Mais ce qui est important, c'est
que le jour de ce vote-là, on a senti que tous les partis, je dirais, du centre-droit au centre-gauche, globalement étaient intéressés. Et quand je dis centre-gauche, enfin, jusqu'au PS, si vous voulez. Voilà. Tout ce qui était, entre les centristes de droite ou de gauche, globalement, tout le monde était intéressé. Tout le monde était intéressé. Par contre, l'opposition était à l'extrême droite et à l'extrême gauche, des deux côtés. Donc aujourd'hui, c'est ça un peu le terrain de jeu. C'est ça le terrain de jeu. Alors je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer pourquoi ça bloque aux deux extrêmes. Les raisons sont différentes. Hein.
Il te reste 2 minutes.
Mais globalement, le sujet qui fait débat, hein, bon, avec des modalités différentes, c'est la valeur travail. C'est-à-dire qu'il y a cette impression, qui est fausse, hein, que si on donne de l'argent aux gens, comme ça, entre guillemets, gratuitement, eh bien, ça va, c'est quelque chose qui est à l'opposé de la valeur centrale du travail dans la société. C'est pas très vrai, hein, cette critique n'est pas très vraie, parce que quelqu'un qui a 500 euros pour vivre, bah, il va quand même chercher du boulot. Hein. Ça va pas le freiner beaucoup en réalité. Mais les gens ont cette impression que le fait que ce soit gratuit, qu'on vous donne, que c'est indu et qu'on vous demande rien, du coup, c'est opposé au fait que le travail est premier, quoi. Et ça coince à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. C'est symétrique.
On a déjà évoqué dans plusieurs émissions cette question de la valeur travail, en comprenant aussi que c'est d'abord une réduction à la valeur emploi, parce qu'il y a plein de façons d'être utile à la société et de travailler. On l'a vu évidemment pendant les confinements, d'où notre émission qui s'est appelée « Tous essentiels ». Donc ça, on a discuté aussi déjà là-dessus, et puis on a vu aussi que dans les expérimentations, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'avec un revenu de base, les gens se libèrent, d'autant plus pour créer leur propre activité, parce qu'ils ont un socle de sécurité pour eux, leur famille, et donc ils osent prendre des risques. D'ailleurs, les jeunes entrepreneurs défendent le revenu de base depuis très longtemps. Donc effectivement, cette croyance est largement contredite par les faits de plusieurs...
C'est un mythe urbain qui traîne depuis très très longtemps et qui freine beaucoup de personnes.
Oui, et pourtant...
Cette croyance qui est fausse, hein, qui est fausse, si on nomme quelqu'un de quoi bouffer, il va arrêter de travailler. C'est pas vrai.
Au contraire.
Il sera en état de travailler, à l'inverse.
Oui.
C'est plutôt l'inverse.
Psychologiquement et physiquement.
Eh bien, du coup, Marc, merci beaucoup de nous avoir présenté ton revenu 2RU qui élimine la pauvreté et pas forcément les inégalités. Du coup, je suis quand même un petit peu déçu, mais bon, voilà.
Il faut d'autres outils pour ça.
Et bien, on continuera à y réfléchir dans Tous essentiels dès le mois prochain. Merci beaucoup, Virginie. Au revoir. Et puis, au mois prochain. Alors,
à très bientôt. Merci beaucoup, Marc, pour tout ce travail à notre service commun.
Et puis on va écouter juste allez, les trois premières notes de la Java du Caniveau, parce que je ne résiste pas, mais ce sera pour la prochaine fois pour l'écouter en entier. C'est parti.